France Inter.
Bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée. Ce soir, il y a le procès de Donald Trump qui vient de débuter à New York.
Oui, un procès pour faire la lumière sur la campagne présidentielle de 2016, alors que débute la campagne présidentielle de 2024. Donald Trump risque gros, lui qui était accusé d'avoir fomenté un complot criminel. On va retrouver notre correspondant sur place au début de ce journal. Lui est accusé d'avoir recruté des hommes de main pour se venger de son kiné. Le procès d'un musicien et de ses complices présumés venus de Géorgie s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Récit de la première journée d'audience dans les prochaines minutes. On ira aussi en Italie, où un écrivain a été désinvité d'une émission de la télévision publique et beaucoup craignent une censure de la part du pouvoir. Quelques jours pour souffler et pour jouer tout simplement loin du fracas des bombes. On ira à Lille, qui accueille plusieurs dizaines de jeunes sportifs ukrainiens. On parlera aussi d'un nouveau record, celui du chiffre d'affaires des jeux d'argent en France.
Et on en parlera avec l'invité de ce journal, c'est Guillaume Laborderie de l'Autorité Nationale des Jeux.
Et puis c'est un pas de plus sur le très long chemin qui devrait la mener dans l'espace. La Française Sophie Adonneau vient de valider la première phase de sa formation d'astronaute, fière et patiente. On va l'entendre à la fin de ce journal.
Et dans le 18-20 ce soir, enfin, ils ont voté oui. Nous allons essayer de comprendre ce qui a débloqué la Chambre des représentants américaines sur l'Ukraine après 6 mois d'atermoiement. Est-ce que ça veut dire, surtout dans le déroulement de la guerre, le reportage d'un jour dans le monde est en Chine avec cette question. Le gouvernement chinois a-t-il, comme il le dit, éradiqué la très grande pauvreté? Céline, vous nous expliquerez pourquoi certains Brésiliens fans de Bolsonaro manifestent avec des pancartes marquées « Merci Elon Musk ». Dans Le Monde, à 18h50, Franck Madvon prononce le mot tabou au sujet de l'Ukraine, le mot « négociation ». Et puis Cyril Sauvageau nous fera entendre du fado. C'est la BO du Monde à partir de 19h20. Le téléphone sonne, on parle d'autorité ce soir pour enrayer la violence, pour apaiser les classes, les internats, les mentions dans le carnet de correspondance, les notes minorées au bac. Restaurer l'autorité sans tomber dans l'autoritarisme. Comment ça marche? On vous attend sur cette question.
France Inter.
Ce sera donc le procès le plus sensationnel de l'histoire américaine.
C'est en tout cas ainsi qu'il est présenté dans la presse. 12 jurés, une vingtaine de témoins appelés à la barre, entre 6 et 8 semaines d'audience. Le procès de Donald Trump vient de commencer à New York. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir Céline.
Vous êtes sur place pour France Inter. Toute la question sera de savoir si l'ancien président a acheté le silence d'une ancienne star du X juste avant le scrutin présidentiel de 2016. Et le procureur a eu des premiers mots très durs, l'accusant d'avoir fomenté un complot criminel.
Oui, il se souviendra de ces mots. Matthew Colangelo, qui prononçait sans doute la plaidoirie la plus importante de sa vie. Donald Trump a menti encore et encore et encore, a-t-il assuré aux jurés dans cette salle d'audience au 15e étage du tribunal de Manhattan. Alors l'ex-président lui piquait un petit peu du nez ce matin sur sa chaise, mais cette première prise de parole l'a réveillé et le milliardaire secouait la tête alors que Colangelo l'accusait d'avoir tenté, en achetant le silence de Stormy Daniels, de corrompre la présidentielle de 2016. Le procureur ensuite a présenté ses complices, Michael Cohen, l'avocat et le fixeur, David Pecker, le patron de presse chargé d'étouffer les affaires les plus embarrassantes. Il s'agit de fraude électorale, résume-t-il purement et simplement.
Et que répond la défense de Donald Trump ?
Eh bien, que le président Trump est innocent, ce sont les premiers mots de Todd Blanche, l'un des avocats de l'homme d'affaires. Le président Trump n'a pas commis le moindre crime, répète-t-il, ajoutant que son client était, je cite, « drapé dans l'innocence, contrairement à ses accusateurs ». Jamais, dit-il, Trump n'a eu de relations sexuelles avec Stormy Daniels. Quant à Michael Cohen, ce serait un criminel obsédé par l'idée de voir son ancien patron en prison. Blanche dit s'attendre à un verdict non coupable, très rapide, et appelle les jurés à faire preuve de bon sens. Cette première journée d'audience doit se terminer dans une demi-heure. Pas sûr que l'on voit dès aujourd'hui un témoin à la barre, mais c'est un procès historique et surtout très haut en couleur, Céline, qui s'est ouvert aujourd'hui à New York.
Merci Loïc Loury, correspondant à New York pour France Inter. Les États-Unis qui ont voté ce week-end une nouvelle aide militaire d'ampleur à l'Ukraine, 61 milliards de dollars pour faire face à l'offensive de la Russie. L'offensive qui se poursuit et qui se traduit par la conquête d'un second village en quelques jours à l'est de l'Ukraine, qui se traduit aussi par de nouvelles attaques aériennes. La tour de télévision de la ville de Kharkiv a été victime d'une frappe russe et s'est effondrée aujourd'hui, a priori sans faire de victimes selon les autorités locales. Eux vivent à Kharkiv justement et viennent d'en partir pour venir passer quelques jours en France, pour souffler, pour jouer, pour profiter de leur enfance. Loin du bruit des bombes, une quarantaine de jeunes sportifs ukrainiens âgés de 6 à 14 ans se sont installés à Lille, conséquence du jumelage entre les deux communes. commune. Un séjour de 10 jours qui va leur offrir un peu de répit après 2 ans de guerre. Reportage de Lisa Morizon.
À 40 km du front, difficile de s'entraîner. Les jeunes sportifs sont régulièrement interrompus par des alertes à la bombe et des explosions. Anna a 12 ans et continue de pratiquer la gymnastique dans son club à Kharkiv.
C'est vraiment difficile. On peut s'entraîner, mais c'est à peine 2 heures dans la semaine. Il y a beaucoup de bombes. Nous avons vraiment peur de la situation à Kharkiv.
Jusqu'au 29 avril, les jeunes sportifs vont visiter la région. Au programme, la visite du zoo de Lille, de l'aquarium Nausicaa de Boulogne-sur-Mer et une après-midi shopping. Martine Aubry, maire de Lille, souhaite apporter des petits moments de la vie à ces jeunes.
Ce sont des jeunes qui ont une passion dans la vie, c'est leur sport. Et donc vivre ici leur passion sans craindre les bombes, les appels à rentrer dans les abris, c'est ça que j'appelle le répit. C'est pas oublier ce qui se passe là-bas où ils ont leur famille, mais simplement pouvoir avoir des moments où on pense à autre chose, où on vit comme tous les enfants du monde devraient vivre.
Depuis le début de la guerre, un peu plus de 900 réfugiés ukrainiens ont été accueillis par la ville de Lille. Dans quelques semaines, l'équipe de natation ukrainienne viendra préparer les Jeux Olympiques dans les piscines de la métropole lilloise.
Reportage de Lisa Morizon de France Bleu Nord pour France Inter. Au Proche-Orient, des membres de l'UNRWA ont-ils été impliqués dans l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre dernier suite aux accusations d'Israël. Catherine Colonna a été chargée d'évaluer la neutralité de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. L'ancienne ministre des Affaires étrangères doit présenter son rapport dans les prochaines minutes, selon le journal britannique The Guardian, qui a eu accès à ce rapport. Aucune preuve ne permet de démontrer que des employés de l'agence font partie de groupes terroristes. On y revient en détail dans le prochain journal à 19h.
En Italie, la RAI vit une période de très forte turbulence.
Oui, le groupe audiovisuel public subit-il les pressions du pouvoir? Beaucoup se posent cette question à Rome. Où vous vous trouvez? Bonsoir Bruno Duvic.
Bonsoir.
Tout part d'une émission sur l'anniversaire de la libération de l'Italie en 1945, prévue dans quelques jours sur la 3e chaîne. L'écrivain Antonio Scuratti, auteur d'une série de livres référence sur Mussolini, devait participer, mais son intervention vient d'être annulée et l'affaire Bruno prend de l'ampleur en Italie.
À tel point qu'hier, au journal télévisé, un communiqué syndical a été lu par la présentatrice.
Le contrôle des dirigeants de la RAI sur l'information de services publics se fait chaque jour plus asphyxiant.
Alors, avant-hier soir, lors de l'émission, Antonio Scuratti devait notamment dénoncer le refus de Giorgia Meloni de prendre clairement et nettement ses distances avec le fascisme. Certains au sein de la RAI avancent une explication économique à l'annulation. Scuratti aurait demandé 1 800 € pour participer à l'émission, ce qu'il n'a pas démenti. En revanche, la presse italienne a publié un mail interne à l'entreprise qui avance bien des raisons éditoriales pour l'annulation. Le gros chèque éventuel ne serait donc qu'une excuse. Y a-t-il eu un coup de zèle d'un cadre intermédiaire ? La direction de la RAI fait valoir que la participation de l'écrivain était annoncée dans un communiqué et qu'une enquête interne est en cours. Pour ajouter au tableau, à cette même émission, celle qui est directrice adjointe des journaux d'information sur la première chaîne de la RAI participait à un débat sur l'avortement cette fois-ci et voici ce qu'elle a dit.
On est en train de confondre un droit et un délit. L'avortement est un homicide.
Ceci est la RAI de Meloni, commente le Parti démocrate à gauche. Pour essayer d'éteindre l'incendie sur le cas Scuratti, Giorgia Meloni a reproduit sur sa page Facebook le texte de l'intervention prévue de l'écrivain. Façon de dire, il n'y a pas de censure. Mais cela ne suffit pas parce que cette controverse est loin d'être la première à la RAI.
Merci Bruno Duvic en direct de Rome pour France Inter. C'est une nouvelle fonctionnalité qui récompense le temps passé devant les écrans. La Commission européenne vient d'ouvrir une enquête concernant TikTok Lite. Bruxelles estime que ce nouveau service du réseau social chinois pose, je cite, des risques graves pour la santé mentale des utilisateurs, car cela peut renforcer le côté addictif. L'exécutif européen s'apprête à imposer une suspension du programme de récompense. TikTok a jusqu'à mercredi pour fournir les arguments de sa défense.
Et là aussi, les questions de risque d'addiction, les jeux d'argent atteignent un nouveau record en France.
Oui, avec un chiffre d'affaires qui a atteint près de 13,5 milliards d'euros en 2023, chiffre en hausse de 3,5% par rapport à l'année précédente, qui était déjà une année record. Et tous les types de jeux sont concernés, y compris les casinos et les jeux en ligne, selon des données publiées par l'Autorité nationale des jeux.
Et bonsoir Guillaume Laborderie.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur marché et innovation à l'ANJ, justement, l'Autorité nationale des jeux. On va y venir sur les paris en ligne dans un instant. Mais ce que je lis avec presque avec stupéfaction, en fait, c'est que les casinos marchent particulièrement bien. Les casinos, c'est un peu le jeu d'argent à l'ancienne, mais qui marche toujours autant. On a l'impression que sont revenus, et même plus nombreux, tous les adeptes d'avant les confinements, en fait.
Oui, effectivement, il y avait eu les confinements qui ont particulièrement marqué l'activité du secteur. Cette année, après une année 2022 déjà performante, l'année 2023 avec une croissance de 8% et un PBJ, donc l'équivalent du chiffre d'affaires qui s'établit à 2,7 milliards, marque encore une année record pour l'activité.
Mais est-ce que vous diriez, Guillaume Laborderie, que plus la situation économique est mauvaise, plus on va vers les jeux d'argent en se disant « bah de toute façon, il y a que le casino qui va me sortir de là », ça marche comme ça ou pas?
Je suis pas sûr qu'on puisse établir ce parallèle-là directement. Après, effectivement, les chiffres montrent en tout cas un marché particulièrement dynamique, effectivement les casinos, mais cette année, l'ensemble des secteurs et des segments sont en croissance, ce qui était pas encore observable depuis la crise sanitaire.
Alors effectivement, donc vous le disiez, les casinos et aussi bien sûr les jeux d'argent, ce qui a de quoi vous inquiéter j'imagine, hein, parce qu'en ligne de mire il y a les JO, il y a aussi l'Euro de football, et typiquement le foot par exemple, mais pas seulement, ça fait partie des sports sur lesquels on joue des sommes qui sont énormes.
Alors effectivement, l'année 2024 est particulièrement riche en termes de calendrier sportif, contrairement à 2023. Donc l'enchaînement Euro et Jeux Olympiques qui s'annonce pour l'été. Donc on sera particulièrement, en tout cas on demande aux opérateurs de jeux d'être particulièrement vigilants quant à l'intensification des éventuelles pratiques de jeux durant cette période. On sait que c'est toujours une période de recrutement, de nouveaux joueurs, de publicité, de communication assez intense. Donc on est vigilant sur ce calendrier.
Mais qu'est-ce qu'ils voient, Guillaume Laborderie, les opérateurs? Est-ce qu'ils ont les moyens d'être vigilants avec les joueurs excessifs, par exemple? Est-ce qu'on sait repérer sur les plateformes ceux qui jouent énormément, ceux qui perdent énormément? On sait repérer ça? Et surtout, est-ce qu'on sait et est-ce qu'on peut obliger les plateformes à pointer en disant « Attention, monsieur, vous êtes en train de perdre beaucoup d'argent ?»
Oui, tout à fait. Il y a tout un tas d'indicateurs qui sont mis en place par les opérateurs. Nous, on les accompagne aussi dans ces indicateurs-là, dans l'établissement de ceux-ci. On suit ça de près. Et en fait, les opérateurs doivent identifier les joueurs excessifs et prendre des mesures qui soient adaptées à chaque cas.
Est-ce qu'on les voit bouger, ces joueurs excessifs? Parce qu'il y a quand même un chiffre qui m'a intéressé aussi beaucoup dans ce que vous dites. Le nombre de parieurs sportifs est en baisse pour la première fois depuis 2019. Oui. Ça veut dire qu'il y a moins de parieurs, mais il y a plus de gens qui jouent beaucoup ou qui jouent gros.
Alors effectivement, on peut avoir une évolution des pratiques des parieurs. Alors le nombre de parieurs est en diminution en 2023, mais 2023 est une année un peu particulière avec pas d'événements sportifs majeurs. La Coupe du Monde de rugby n'est pas comparable à un Euro ou une Coupe du Monde. Donc il peut y avoir un petit tassement du bassin de joueurs après trois années de croissance et trois années assez riches en termes d'événements, un enchaînement Euro, Coupe du Monde, Euro. 2023 était plus calme en termes de calendrier sportif. Donc on sera vigilant pour l'année 2024.
Une dernière question, Guillaume Laborderie. Il y a eu une très grosse campagne il y a quelques mois à peine qui mettait en garde les joueurs. Attention, attention aussi aux arnaques. Attention, c'est pas parce que vous connaissez le foot, le rugby, le tennis que vous allez gagner. Est-ce que vous diriez que cette campagne a eu son efficacité? Est-ce qu'elle l'a eu sur les nouveaux joueurs qui ne sont pas forcément venus, sans aucun effet sur les gros joueurs, ceux qui sont véritablement addicts?
Alors oui, je pense que cette campagne a l'effet. Le plus d'informations sera à disposition du public. Voilà, l'information est primordiale et une bonne formation, une bonne connaissance des risques en fait ne peut que être bénéfique pour le marché et éviter justement d'avoir un nombre de joueurs excessifs qui augmente.
Allez, on leur dit en tout cas avec modération, comme très souvent ou pas du tout d'ailleurs. Enfin bref, 13 milliards quand même, c'est un sacré chiffre. Guillaume Laborderie, directeur marché et innovation à l'Autorité Nationale des Jeux. Merci beaucoup.
Dans l'actualité également ce soir, cette question: que s'est-il passé la nuit dernière sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse dans les Landes? Le chanteur Kenji Girac a été blessé par balle au thorax dans des circonstances encore floues. Les gendarmes n'écartent aucune piste. L'artiste de 27 ans est toujours hospitalisé près de Bordeaux. On ira sur place dans le journal de 19h à la cour d'assises de Paris. C'est le procès d'un musicien de 52 ans qui s'est ouvert tout à l'heure. Il est accusé d'avoir recruté une équipe venue de Géorgie pour tenter de s'en prendre à son ancien kiné, furieux d'une mauvaise manipulation qui l'a laissé, dit-il, handicapé. En 2019, le praticien avait été renversé par une voiture alors qu'il traversait une rue parisienne. Bonsoir Jean-Philippe Deniouf.
Bonsoir Céline.
Vous avez suivi la première journée d'audience de cette incroyable histoire de règlement de compte.
Oui, ils sont presque tous libres ici à la cour d'assises de Paris. C'est rare pour une tentative de meurtre en bande organisée. Assis les uns derrière les autres, à quelques pas de la victime, Michel, le kinésithérapeute qui a échappé à ce règlement de compte il y a 5 ans et qui contemple ce curieux attelage d'accusés. Sylvain, auteur, compositeur, interprète, se présente-t-il à la cour et professeur de musique. Une épaisse minerve lui fige la tête sur les épaules depuis qu'une mauvaise manipulation lui a causé des lésions cervicales et des ennuis judiciaires. Son ex-compagne Maria, une jeune sage-femme grecque d'origine géorgienne. « Je reconnais tout », précise-t-elle d'emblée à la cour. « C'est la seule façon pour moi de montrer ma compassion. Tout, c'est donc d'avoir sollicité son père pour monter un gang de compatriotes capables de venir à Paris faire le coup pour quelques centaines d'euros. Il y a aussi Frédéric, un chirurgien dentiste, un ami de Sylvain. Il conteste avoir su quoi que ce soit du contrat que le musicien avait engagé sur la tête du kiné. La cour d'assises de Paris se donne donc 3 semaines pour comprendre comment tout ce petit monde a été entraîné dans ce règlement de compte d'un autre âge.
Merci Jean-Philippe Deniaud en direct du Palais de Justice de Paris. Le gouvernement reprend la main sur l'assurance chômage. Les négociations entre patronat et syndicats n'ayant pas abouti, l'exécutif fixera lui-même de nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi qui devraient être plus restrictives. Nouvelles règles qui entreront en vigueur le 1er juillet. Et puisque l'on parle de travail, l'ONU s'inquiète des conséquences du dérèglement climatique sur la santé des travailleurs dans le monde. 71% de la main-d'œuvre mondiale est susceptible d'être exposée à une chaleur excessive, les fortes températures qui sont responsables de près de 23 millions d'accidents du travail chaque année. Les chaleurs, on les a connues un peu il y a quelques jours en France. Désormais, c'est le froid, la pluie qui sont au programme dans tout le pays. On y reviendra avec les prévisions météo dans quelques minutes. En Normandie, les prairies sont détrempées. Impossible de laisser paître les vaches laitières comme elles le font habituellement cette saison. Reportage à Yville, un village au cœur des boucles de la Seine près de Rouen, où s'est rendue Lucie Amadieu.
Juste à côté de la grange, ce champ s'est transformé en marécage à certains endroits.
On va marcher et ça va être spongieux en fait. Là, il y a de l'eau au fond en fait.
Emmanuel Drouet n'y met ses vaches que quelques heures dans l'après-midi.
Il ne faut pas les laisser trop parce que sinon l'herbage est fichu. Ça va être un vrai champ de labour, hein. Donc c'est pas possible.
L'herbe mettrait alors trop de temps à pousser, donc pour la protéger, l'éleveur garde ses animaux à l'intérieur. Mais il est obligé de piocher dans ses réserves pour les nourrir et entretenir leur enclos.
Il y a environ 100 bottes de paille qui sont déjà parties. Et en foin, il en reste peu, il en reste quoi ? Allez, 40 boules à peu près. Donc c'est plus juste 100 foin, mais on a de l'enrubanage pour compenser.
Un mélange d'herbes et de céréales pour tenir jusqu'à la prochaine moisson. Mais c'est le coût à payer pour Emmanuel Drouet qui préfère cela, avoir ses vaches dans un mauvais état dehors.
Elles font le dos rond, elles sont pas bien quoi. Elles vont chercher à se mettre dans des endroits à l'abri du vent, dans les parties hautes des herbages pour être au plus sec possible. C'est logique, hein, c'est comme nous en fait.
L'humidité et le froid pourraient aussi leur causer des infections aux sabots. Donc l'éleveur continue d'attendre que la météo s'améliore avant de ressortir ses vaches.
Lucie Amadieu de France Bleu Normandie pour France Inter.
Et puis la Française Sophie Adnaud décroche son diplôme d'astronaute.
On a presque envie de chanter un peu plus près des étoiles, comme Gold dans les années 80. Bonjour Arthur, je n'en ferai rien. L'ingénieur a reçu ce matin son diplôme après une année de formation au centre d'entraînement de Cologne en Allemagne, acclimatation à l'apesanteur, entraînement en piste. Piscine, cours technique, biologie, ça a été long et difficile et ce n'est pas encore terminé. Mais Sophie Adnaud sait être patiente, elle l'a dit tout à l'heure au micro de France Info.
C'était chouette de recevoir ce diplôme et puis les ailes d'astronaute. Mais bon, moi, je dois dire que c'est juste une étape. Hein. C'est juste d'avoir le droit de passer à la seconde, hein, j'allais dire, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir espérer un jour partir dans l'espace. Clairement, au fil des activités, toutes plus insolites les unes que les autres, que ce soit les stages survie, les entraînements en piscine, les entraînements robotiques, etc. Enfin, on a appris à se connaître et maintenant, on est vraiment une équipe hyper soudée. Ça, c'est clair. C'est quand même assez extraordinaire pour nous tous de savoir que chacun, on aura une mission sur l'ISS de 6 mois avant 2030. C'est magique. Et donc au final, on se dit, bon, bah, c'est quoi? Si on a 1 an, 2 ans, 3 ans à attendre de plus, bon, bah, c'est rien dans l'échelle d'une vie d'astronaute.
Voilà la patience, maître mot pour celle qui doit devenir la deuxième femme française à partir dans l'espace, après Claudie Aignoret dans les années 90.
Allez, Céline Asselot, merci beaucoup. Vous revenez dans Sous les radars dans un petit instant avec des cannibales, notamment un œil sur le ciel, s'il vous plaît.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonsoir, encore assez froid hein, demain.
Oui, bonsoir à tous. Oui, de petites gelées hein, le matin de la Normandie et du Massif central vers le flanc est, ponctuellement sur le sud-ouest également. L'après-midi, vous aurez 8 à 12 degrés de la Manche vers le Massif central et les Alpes, 12 à 14 de la pointe bretonne jusqu'au sud-ouest, 13 à 16 pour la Méditerranée. Et la fraîcheur, elle va se poursuivre une bonne partie de la semaine. Les températures remonteront seulement en fin de semaine.
Et côté ciel, encore quelques averses.
Oui, du Massif central et du Berry vers le Jura et les Alpes, jusqu'à la Corse même. Elles seront plus nombreuses l'après-midi à l'est du Rhône. Parfois orageuse sur la côte d'Azur et la Corse. Il y aura un risque de neige à basse altitude autour des massifs le matin, puis vers 1000 mètres pour l'après-midi. Au sud de la Garonne, un petit peu de pluie qui persistera près des Pyrénées dans l'après-midi. Un petit peu de pluie également de la Bretagne aux côtes normandes et ailleurs des éclaircies. Alors très belles le matin, mais un petit peu plus discrètes au fil de la journée.
Élodie Callac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, vous reviendrez tout à l'heure après le journal de 19h.